Donc on va pouvoir commencer cette discussion qui va être relativement courte, puisqu'on nous laisse seulement une heure pour... mais bon, en même temps, ça va amener un dynamisme dans les débats, j'imagine. Moi, je suis Marie Lemoyne, je m'occupe de la coordination de la SMAC d'agglomération bordelaise. Et SMAC, c'est Scène de musique actuelle, donc ça réunit le Krakatoa, le Rocher de Palmer, la Rock School Barbet et Rock et Chanson. Donc ce sont quatre scènes qui sont soutenues par les différents niveaux de collectivité pour leur activité dans le champ des musiques dites actuelles. Donc qui va du rock à l'électro, en passant par le rap, le reggae, etc. etc. Et donc l'enjeu d'aujourd'hui, on va dire, ce qui nous avait paru intéressant, c'est que la thématique d'aujourd'hui, c'est la question de l'espace public. Et donc l'espace public, ça recouvre un certain nombre de champs, de notions, que ce soit l'espace public urbain ou bien comment on se l'approprie aussi pour un moment nourrir un discours qui touche des publics et des populations. Et la première partie, on va dire, des discussions va concerner ce premier enjeu. Moi, il y a un petit truc qui m'a amusée hier dans le cadre d'Agora. Il y a eu un concert donc de Haut de Zen qui était organisé à Braza, donc c'était dans le cadre d'un événement qui s'appelait Brazzaville. Et donc cet événement, il a été un petit peu utilisé par Agora de telle sorte de créer aussi des nouvelles circulations dans un quartier qui aujourd'hui n'existe pas pour les publics. Et c'est vrai que la musique dans ce cadre-là apparaît aussi comme un outil assez intéressant pour amener des publics à fréquenter des nouveaux quartiers, à fréquenter les périphéries et les marges de la ville. Et c'est vrai que ces 20 dernières années, on a pu observer pas mal des concerts se dérouler ayant quelques difficultés à s'installer dans l'espace public au centre. Au fur et à mesure, ils ont investi les périphéries. Cette capacité-là qu'a la musique au fur et à mesure à créer aussi des nouvelles appropriations de la ville, elle a comme ça une dimension assez, assez particulière. C'est vrai qu'au tout début, dans les années 80, il y a pu y avoir un certain nombre d'opérateurs qui sont mobilisés d'abord pour avoir des lieux pour s'exprimer. Et on observe au fur et à mesure que ces lieux-là ont développé une programmation annuelle et qu'il y a un certain nombre d'associations qui, en périphérie, ont développé des programmations qui sont déroulées dans l'espace public avec des difficultés, avec aussi un certain nombre de perspectives que ça apporte et une nouvelle vision de la ville. Donc c'est vrai que là, j'aurais voulu faire intervenir Mathieu de Banzai Lab, qui est un petit peu en retard. Banzai Lab, qui est une association qui a été créée en 2006-2007, je ne sais pas s'il va arriver bientôt. Cette association a créé à la fois un certain nombre de manifestations dans l'espace public en investissant la rive droite notamment, ou bien les bassins à flots au nord de Bordeaux, et en parallèle organise aussi des concerts dans des lieux. Et c'est vrai que ça apparaît assez intéressant de discuter de la manière dont justement ces choix se font et comment les publics au fur et à mesure sont amenés à s'approprier des nouveaux espaces par la musique, qui est quand même un outil de rassemblement assez, assez particulier. Je pense que on parlera de ça un tout petit peu après. ça va être un petit peu laborieux ce début. Moi, la raison pour laquelle j'ai fait venir les personnes qui sont ici aujourd'hui, donc on a Calam Cédric qui s'occupe de l'association Effort de Conscience, qui est je vais l'amener un peu à intervenir sur la raison pour laquelle il a appelé son association comme ça. C'est déjà quelque chose qui est vecteur de pas mal de sens. Et pourquoi aujourd'hui la musique peut t'amener à intervenir dans les quartiers, notamment auprès d'un certain nombre de publics, et quel enjeu et quel rôle ça peut avoir aujourd'hui aussi pour ces populations-là.
Eh bien, bonjour. Oui, on a monté en 2003 une association, je dis « on » parce que je ne suis pas seul, je viens le défendre là à titre individuel, mais il y a une démarche collective aussi. On a monté en 2003 l'association Effort de Conscience. De par pratique, venant du hip-hop, la réappropriation d'espace, c'est des choses qui sont de fait. Parce que rien que déjà pour pouvoir répéter, on est obligé de récupérer un local, parce que les lieux d'habitation ne permettent pas de pouvoir répéter chez soi. Donc on récupère une entrée ou on récupère une cave. Et dès 98-99, j'avais récupéré à Domo France des mètres carrés associatifs pour essayer d'avoir un lieu de regroupement dans le bâtiment dans lequel on était. Il faut savoir que ces mètres carrés associatifs aussi sont mis à disposition par les municipalités à des associations sur le terrain. Donc on était aussi dans une démarche d'aller voir l'association et de dire bonjour, nous habitons sur ce quartier, est-ce qu'il est possible d'utiliser les locaux ? Ah, il vous faut une association avec responsabilité civile. Ah, d'accord, ok, très bien, mais j'habite ici, toi tu n'y habites pas. Voilà, donc déjà c'est une ouverture de dialogue. Mais c'est super important. Quand je parle de réappropriation aussi des mots, il se trouve que dans le groupe de pairs moi, dans lequel j'étais, on n'était pas forcément à l'aise avec les mots. On n'avait pas forcément de projection possible avec la langue française. Et là, on prenait les mots. Donc on se réappropriait aussi un espace qui était notre parole. Notre parole dans un groupe, notre parole comment elle peut porter aussi à titre associatif, puisqu'on est obligé de monter une association pour récupérer ce local-là, sinon on ne les a pas. Donc c'est soit on les squatte, soit on passe par celui qui va nous donner la clé. Parce que les mots sont des clés. Si je ne les ai pas, malheureusement, je ne peux pas ouvrir les portes. Et ça, on l'a compris très tôt qu'il y avait des espaces dans lesquels on était. Et si on n'est pas outillé, malheureusement, on ne peut pas ouvrir cet espace. N'importe quel groupe de pairs, on ne parle pas forcément de la même manière sur un city-stat qu'avec sa famille, que dans le milieu scolaire, que dans le monde de l'entreprise. Et que si on n'avait pas ces clés, on était malheureusement derrière la porte. Et que plus on avait de mots, plus on avait de possibles. Ça, on l'a compris très tôt. Et on s'est dit, on va... Donc déjà, on va chanter, on a pas... Enfin, tu vois, on a rappé. Peut-être ça nous engageait le moins culturellement que de chanter, tu vois. Se réapproprier aussi le sample, tu vois, les platines, le vinyle, enfin voilà, toute une culture et tu te retrouves représenté. Voilà. Étant conscient de ça, on a monté en 2003 Effort de conscience en disant très clairement pourquoi ne pas permettre à chacun de poser un mot sur un ressenti. Voilà, si les mots sont des clés, et ben donnons la possibilité à chacun d'ouvrir des portes. Et cette porte, elle est matrice de dialogue. C'est pas simplement j'ai posé un mot et puis on s'en fout. On a développé la pratique. Non, c'est la pratique qui peut nous permettre de rentrer en contact avec l'autre. C'est pour ça qu'on a appelé effort de conscience, parce qu'à chaque fois que quelqu'un ouvre cette porte-là, on se doit de recevoir aussi la parole avec une écoute attentive.
Et justement, au départ, toi, tu es artiste, ça t'est apparu comme quelque chose de naturel à un moment d'ouvrir cette fenêtre-là d'expression à des personnes autres, de leur dire « Ah bah toi aussi, tu peux utiliser justement le rap et le hip-hop comme un outil d'expression. »
À partir du moment donné, on est dans des espaces où il y a du monde et qu'on se met en mouvement, le mouvement génère des choses autour de nous, forcément. À partir du moment donné où je vais prendre un micro, où je vais prendre un stylo, où je vais poser un acte artistique en conscience, forcément il va y avoir une zone de turbulence autour. Certains vont dire « Tiens, moi ça m'intéresse, je peux le faire avec toi. » Ou même juste « Je te supporte, est-ce que je peux te donner un coup de main ?» Donc il va se passer ça. Et étant conscient que le regard juge la façon dont on utilise les mots, je me suis dit « Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à mettre en place là ?» Voilà, déjà avec les petits, les plus jeunes, ceux qui nous regardaient en tapant, en mettant les yeux dans la boîte aux lettres, je me rappelle à l'époque, et en regardant ce qui se passait à l'intérieur, il y avait deux possibilités. La première, c'était « Dégage !» La deuxième, c'était « Bon, pas maintenant, on va se revoir après. Laisse-moi tranquille, j'arrive. » Et voilà. Et donc, petit à petit, c'était aussi dire « Si moi, ma démarche, sans la conceptualiser, elle apporte du mouvement et je me mets en mouvement, est-ce que je ne peux pas mettre aussi l'autre en mouvement ?» En disant « Vas-y, dis, pourquoi tu ne dis pas ?» Parce que très souvent, on a travaillé principalement avec les jeunes au début et donc des jeunes de quartiers prioritaires, appelés prioritaires. Parce que très souvent, quand on vient dans un espace et qu'on sent qu'on n'a pas les mots, on se barre de l'espace. On se dit « Laisse tomber, ce n'est pas pour moi. » Comme quand on a quelqu'un en face, mais déjà dans nos familles, et qu'on n'ose pas dire à sa mère « Pourquoi on fait la gueule ? Vas-y, pourquoi tu fais la tête ? Je n'ose pas le dire. Et on est dans cette tension-là. Et après, on dit « Ah, c'est bon, j'ai plus rien. Vas-y, je ne comprends rien, je barre. Et je ne comprends rien à leur discours politique. Je sais pas. Non, c'est bon, je fais la tête. Je ne vais pas t'expliquer. Je n'ai pas envie de t'expliquer. » Et que là, il y avait un enjeu. Voilà, donc on a commencé les ateliers comme ça en disant « Vas-y, permets-toi, là, tu as une feuille, tu peux la saigner, la feuille, elle ne va pas te porter plainte.
» Mais au départ, si je prends par exemple l'exemple de musique de nuit, vous avez, au Rocher de Palmer, vous l'avez ouvert en 2010. Auparavant, il y a eu une vingtaine d'années d'activité qui était hors les murs. Et ça a été une activité qui a été aussi beaucoup soutenue pour ces activités dites de médiation avec les publics. À ton avis, Patrick, je vais te prendre à brûle pour point. Justement, quel était le rôle que vous vous êtes donné à ce moment-là et qu'est-ce qui t'a paru, comment c'était apparu comme évident de faire ce travail
Bah déjà, le fait de ne pas avoir de lieu, ça nous obligeait à aller chez les autres. Donc, aller chez les autres, c'était aussi bien aller au Krakatoa, à Barbet, au CAPC, voilà, un petit peu partout. Et puis aussi, très vite, dans les centres sociaux, parce qu'on a toujours pensé que les centres sociaux, les centres d'animation avaient un rôle fondamental à jouer dans ce lien, dans cette médiation entre les publics et la culture au sens très large. Donc, très vite, on a mis en place des ateliers dans ces structures-là, au sein des centres d'animation et des centres sociaux, des ateliers d'écriture avec IAM, etc. Ça, c'était au début des années 90, et donc ça a duré à peu près 7-8 ans. Et puis ensuite, ça a donné naissance à plein d'initiatives. Voilà, on s'est retiré de ce travail de proximité. Puis les centres d'animation, les centres sociaux ont aussi évolué. Donc aujourd'hui, les centres sociaux tels qu'ils sont aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir avec ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Ça pose aussi la question des moyens, la question de la pertinence, de la mixité des publics aussi dans ces lieux. Donc voilà, beaucoup de choses qui ont changé. Mais en tous les cas, moi je reste convaincu que il faut sortir justement un petit peu des logiques d'équipement et puis aller des fois là où on ne nous attend pas, quoi, comme vous le faites avec effort de conscience, mais aller dans les lieux un peu inhabituels. Cet été, on était à la maison d'arrêt pour des ateliers avec un chanteur malgache qui s'appelle Teta. Je crois que voilà, c'est tout le temps un petit peu ça l'idée d'aller ailleurs, quoi, aussi, voir ce qui se passe.
Et justement, est-ce qu'avoir un lieu, ça ne rend pas finalement la démarche plus compliquée? Parce qu'on peut être d'une part, les complexités de gestion d'un lieu qui font quotidiennement, ça peut être quelque chose qui déjà occupe à temps largement plein. Et puis d'autre part, on est en quelque sorte on peut être dans le confort de son lieu et moins percevoir la nécessité immédiate d'aller à la rencontre des gens.
Oui, bien sûr. Enfin, après, ce sont les partenaires aussi qui nous interpellent et qui nous incitent à maintenir des actions en dehors des lieux. Donc, nous, on continue à faire des concerts en appartement, aller dans les centres sociaux, aller dans différents endroits. Mais je crois que c'est de toute façon l'essence même du projet au Rocher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que tout se passe dans cet équipement. Il faut aussi sortir, on a besoin de sortir. Cet après-midi, par exemple, il y a une sieste musicale qui va se dérouler dans une heure de l'autre côté de l'eau. Bon, voilà, donc ces siestes musicales, on les fait d'habitude au Rocher, mais on n'hésite pas à en mettre en place à Charles Perrins, à Cadillac, dans des hôpitaux, etc.
Je vais demander à Mathieu Perrin de Banzai Lab, qui est caché tout au fond, de se rapprocher un petit peu. Donc, comme je disais tout à l'heure, Banzai Lab, donc, c'est une association qui est d'abord label, travaille au développement d'un certain nombre d'artistes, etc. Vous avez une particularité, mais que vous partagez avec un certain nombre d'autres structures, c'est que vous organisez à la fois des concerts en salle et des concerts dans l'espace public. Vous organisez un certain nombre de manifestations qui se baladent comme ça dans la ville. Quelle différence tu fais, toi, entre organiser un concert en salle, d'une part, une salle qui est dédiée, et puis d'autre part, justement, faire des propositions par exemple, sur les quais de Kéris, par exemple, au Vif de l'Art, etc.
Alors effectivement, on est un peu une tortue sans coquille, donc tout ce qu'on porte, cette espèce d'esthétique de mélange entre musique électronique et instrumentale qu'on porte depuis 6-7 ans maintenant, on l'a fait exister dans différents lieux de Bordeaux, effectivement au Rocher, au Krakatoa, dans des lieux plus petits, sur l'espace public. C'est deux choses différentes. Nous, ce qu'on y met en termes artistiques, c'est la même. Après, toute la logistique autour est complètement différente. C'est vrai que quand on est accueilli dans la maison des autres, en général, il y a tout ce qui est au niveau technique, ça existe déjà. Donc il y a toute une logistique à prendre en compte. Il y a tout le travail auprès des pouvoirs publics aussi, au préalable à faire, toutes les déclarations, tout ça. Donc effectivement, quand on est dans un lieu, il y a toujours un partage. Il y a comme un binôme qui se crée entre la structure qui accueille et nous qui venons amener notre projet. Sur l'espace public, en général, on est plutôt seul face à un endroit vide qu'il faut habiter, qu'il faut construire, construire dans le sens barriéré, mettre de la scène, équiper. Et l'intérêt d'être dans l'espace public, c'est que justement, dans une salle, en général, des fois on fait des concerts gratuits dans les salles, mais en général, c'est payant, donc il y a déjà une première différence, c'est que quand on est dans l'espace public, nous on fait uniquement des événements gratuits. Du coup, on confronte ce qu'on propose à des publics différents. Ça arrive souvent qu'on ait des personnes âgées qui passent et qui s'intéressent, ou des enfants, des parents avec des enfants qui passent. C'est des publics qu'on n'a pas dans les salles en général. Et nous, ça nous intéresse en fait, parce qu'on est vraiment, déjà la base du projet, c'était de dépasser les clivages entre musique acoustique, musique électronique, les musiciens qui faisaient de la musique classique, du jazz et d'autres DJ. Et donc l'idée, c'était déjà de faire fusionner un petit peu ces différentes composantes pour créer la musique d'aujourd'hui, de demain. Et l'idée justement d'ouvrir les oreilles de publics qui n'ont pas forcément l'habitude d'entendre ce type de musique-là, qui sont parfois des musiques de niche aussi, qui sont toujours, où c'est toujours les mêmes publics qui vont voir le même type d'artistes. Là, c'est intéressant pour nous de confronter les gens et de confronter nous, nos créations à différents publics.
Mais là-dessus, justement, c'est vrai que ce que tu dis est intéressant sur le fait que, par exemple, des familles qui ne sont pas du tout au fait, par exemple, des musiques que vous présentez, puissent venir, qu'il y ait des enfants, etc., et qu'effectivement, ce soit un public qui ne soit pas forcément accoutumé à l'idée de venir à un concert en salle ou qui n'aurait pas forcément fait ce choix-là. Toi, quand vous investissez l'espace public, vous choisissez quand même des lieux spécifiques. Dans quelle mesure c'est un choix et dans quelle mesure ça relève aussi d'une contrainte? Vous en venez finalement à plutôt utiliser les périphéries. C'est un petit peu plus compliqué de se trouver en centre-ville aujourd'hui.
Alors, les périphéries, les places, c'est vrai que chaque année on a la place des Quinconces maintenant. Cette année on l'avait fait en partenariat avec la Rose School Barbé. La place en elle-même a des intérêts multiples. Le fait est que c'est un grand espace plan, que c'est très bien desservi par les transports publics, qu'au-delà de ça, c'est intéressant aussi pour les forces de l'ordre et pour la sécurité, parce que le fait est que la place, on peut accéder par la place de tous côtés, donc s'il y a le moins de problèmes, les sapeurs-pompiers peuvent arriver. Bon, s'il y a des débordements, en général, on a un public très calme et très sage, donc il n'y a jamais de souci. Mais le fait est que je crois vraiment à l'importance de l'art, peu importe si c'est de la musique ou de la peinture, des spectacles, des expositions. Je crois vraiment à l'art dans la ville, parce que et pas l'art justement, pas seulement des expositions, mais de l'art vivant qui oblige à être dans une interaction avec les publics et les artistes, parce que sinon on est dans une logique de ville-musée. Or voilà, on a une ville très vivante, il y a eu un travail sur l'urbanisme qui a été fait pendant 10-15 ans, qui est énorme. Maintenant, il faut continuer à proposer des initiatives artistiques, parce que la ville, maintenant, peut les accueillir. Avant, ne serait-ce que sur les quais, nous, donc en juin, on a organisé la semaine Kamikaze, donc 7 jours, 7 lieux, 7 événements différents. Et on se rend compte que voilà, il y a plein d'endroits dans la ville où on peut faire des choses. Après, il y a toujours le travail à faire, de respecter les riverains aussi, d'être dans une logique proactive, parce que effectivement, il ne faut pas imposer l'acte artistique à des gens qui n'en veulent pas. Il faut aussi faire un travail de sensibilisation à ces gens-là pour leur faire comprendre que s'il ne se passe rien dans leur ville, il y a un moment où une ville qui ne vit pas, qui ne crée pas, peut être une ville qui meurt. Et voilà, chaque année, on a 80 000 étudiants à Bordeaux. C'est des gens qui sont en soif, qui ont soif de culture, qui ont soif d'événements. Et je pense que voilà, plus on proposera, plus on travaillera ensemble aussi avec d'autres associations. Bah, la SMAC d'Aglo est dans cette logique-là aussi, de faire vivre des initiatives, vraiment à l'échelle de la ville. Je pense voilà, que ce sont des bonnes initiatives.
Justement, tu disais que la ville n'était pas forcément jusqu'alors adaptée à ce type de propositions qui peuvent être un peu questionnées, la question de la cohabitation avec les habitants, etc. etc. Je vais poser un peu la question à Mehdi, puisque vous avez participé à un projet avec Musique de Nuit qui avait lieu à Zagreb et qui a amené à se poser cette question-là, justement, de l'appropriation de l'espace public et comment les gens pouvaient s'y réunir de manière voulue ou totalement fortuite.
Oui, bonjour à tous. Alors c'est vrai, je ne vais pas parler à la place du Rocher, puisque Patrick est là pour les représenter, mais c'est vrai qu'en juin, on a eu la chance de participer à un projet européen qui nous a amenés jusqu'à Zagreb. Et le principe du projet européen, c'était un échange entre deux groupes de jeunes. le groupe de jeunes bordelais, le groupe de jeunes croates. Alors, ce n'était pas le même type de jeunes, mais ce n'était pas le plus important. Mais même si, après, on y reviendra peut-être, c'était intéressant, leur regard différent, justement, et leur usage de la ville qui n'était pas du tout le même. Et le groupe de jeunes bordelais, donc, c'était des stagiaires de la formation numérique qui sont au Rocher pendant 3 mois, là, qui ont fini leur cursus en juin, et qui sont donc des techniciens de l'audiovisuel et du cinéma et du numérique, qui sont en mesure de, voilà, qui sont, on est parti dans l'objectif de réaliser un web documentaire qui est en cours de finition là, en ce moment. Et on a rencontré donc le groupe de jeunes croates qui étaient des universitaires urbanis, qui se seraient vachement plu ici d'ailleurs, parce qu'ils adorent tous ces trucs avec des plans et tout ça, que nous on ne saisissait pas toujours d'ailleurs, et qui étaient des urbanistes, des archis, des sociologues, etc. Et l'idée, c'était d'être sur place pendant un festival de rue. Alors, c'est un festival de rue, comme nous, moi, j'en ai jamais vu en France, parce que c'est un festival de rue avec 50 000 spectateurs pendant 4 jours, sponsorisé par une marque de bière, donc avec en plus un logo jaune qu'on voit partout dans la ville. Donc, c'est vraiment dans le cœur de... Imaginez comme si c'était un peu à Péperlan, quoi, à Bordeaux. Donc, c'est vraiment le cœur de la ville, avec quelques petites places un peu partout. Et en effet, on s'est confronté, et c'était l'intérêt de ce projet, confronter des regards et des pratiques autour de l'espace public. Et alors, ce qui était intéressant, c'était de voir que l'espace public, en tout cas pendant le temps du festival, on est resté 8 jours, et le festival avait lieu un petit peu pendant 5 jours, ça n'arrête jamais, en fait. Voilà, ça n'arrête jamais. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a des temps, en tout cas, que moi je vis à Bordeaux depuis toujours, et on voit bien où il y a des temps d'arrêt quand même, hein, sur l'espace public. On voit bien d'ailleurs comme il y a des temps d'arrêt, puis il y a des temps de surproduction, comme on en voit là en ce moment. Il suffit de venir en vélo, où tous les 50 mètres, il y a un truc nouveau, quoi, sur l'espace public, alors qui se veut en lien avec le fait que ce soit dimanche aussi. Enfin bref. Et là, à Zagreb, c'était intéressant de voir que tout le temps, il y a tout le temps quelque chose sur l'espace public, et c'est souvent grâce à la musique qu'il y a un événement, en fait. Et parce que les Croates, en tout cas les jeunes qu'on a rencontrés, mais même les autres... d'autres catégories d'âge, sont souvent dehors. D'ailleurs, qu'on soit actif ou inactif, enfin, au sens de l'INSEE, c'est-à-dire qu'on est en emploi ou pas, on a croisé beaucoup de gens. Mais qu'est-ce qu'ils font, tous ces jeunes, à 4h de l'après-midi, dans des cafés, ils sont en cours. Et en fait, on était surpris d'apprendre que non, ils étaient chômeurs. Mais être au chômage à Zagreb, c'est pas un problème pour aller boire un café sur une terrasse. Voilà. Parce que nous, ici, on n'a pas l'impression de se laisser permettre, en tout cas, enfin... Des réflexions qu'on a eues avec les jeunes, c'est ce qui est ressorti beaucoup. Certains avaient connu des périodes un peu de creux. Ils disaient, moi, jamais, j'ose pas. Quoi. De toute façon, j'ai pas les thunes. Et puis surtout, je m'autorise pas, quoi, à sortir. En France, il faut chercher du travail tous les jours, même la nuit, des fois. Donc, on n'a pas le droit de sortir. Quoi. Et grâce au festival, on a aussi rencontré des lieux et puis des contre-lieux. C'est-à-dire qu'il y avait des scènes très organisées, justement, très sponsorisées, très... très ciblé dans la ville, où il y avait un programme à la lettre, avec des arts de rue qui étaient vachement intéressants, c'était international, il y avait un beau niveau d'art de la rue. Et ce qui était pour nous intéressant, qu'on a été voir aussi, donc on s'est baladé la nuit beaucoup, c'est qu'il y a plein de lieux un peu hors les murs, quoi, qui ne sont pas du tout repérés, qui ne sont pas du tout affichés, et qui sont vraiment des espaces publics où on a le droit, et même c'est un peu presque fait pour, de s'arrêter, c'est souvent boire un coup, hein, c'est sûr. Mais ce n'est pas choquant de voir des jeunes avec des bouteilles. Alors évidemment, dans des conditions d'hygiène. Hein. Ne vous inquiétez pas, Patrick, on n'a pas amené les jeunes de la formation à boire des coups tous les soirs dehors. C'était de l'observation participante, comme on dit en fac. Mais avec des instruments de musique qui du coup vivent l'espace public. Et avec un tel respect qui fait qu'après, ils rangent leurs déchets. Ils savent qu'à un moment donné, il faut se barrer parce qu'on va gêner le voisinage. On en parlait tout à l'heure. Donc il y a cette culture de l'espace public. En tout cas, ici, on ne retrouve pas encore, même si je suis d'accord avec toi, il y a le décor maintenant à Bordeaux, il n'y a pas encore le scénario ni la vie. Et peut-être que la musique, en tout cas l'art au sens large, peut jouer un rôle aussi de moteur, quoi. Enfin, j'espère, en tout cas ici.
Là, on va justement, habile transition, pour parler du travail qu'a fait Angélique de Hip Hop Pun. Donc, toi, tu es une militante de la scène hip hop et tu l'exprimes surtout. Par le mode média, quoi, en ayant un webzine d'un côté et en préparant ce documentaire. Qu'est-ce qui t'a... donc ce documentaire, déjà, tu vas en parler un tout petit peu et on va en voir un extrait. Qu'est-ce qui t'a animé pour mener ce projet voilà, je poserai une autre question.
Bonjour à tous. Alors déjà, juste, je veux remettre en contexte certaines choses, notamment au sujet de la culture hip-hop, même si certains savent, je préfère... Donc en fait, la culture hip-hop, déjà, c'est un mouvement qui a 40 ans et qui est né dans le Bronx à New York, et c'est composé de différentes disciplines, à savoir le graffiti, le breakdance, le DJing, le rap, et on y associe aussi le beatbox. Et c'est pas tout, en fait, il y a un élément fondamental qui est associé, c'est la connaissance. Et c'est ça, en fait, qui va véhiculer tout un état d'esprit, une philosophie, un mode de vie avec des valeurs positives. Et voilà, c'est ça la culture hip-hop, ce mouvement artistique sur lequel je travaille. Donc, à travers tout d'abord un webzine que j'ai fondé il y a 3 ans pour justement mettre en avant des artistes émergents, pour parler de sujets, de thématiques liées au hip-hop et faire découvrir ou avec des interviews, etc. J'ai monté une association aussi qui fait des ateliers pédagogiques envers des jeunes, notamment sur la connaissance de la culture hip-hop et par exemple on fait des ateliers sur le hip-hop et la citoyenneté, des choses comme ça. Après, voilà le gros projet sur lequel on s'est lancé récemment, c'est la réalisation d'un documentaire sur l'universalité de la culture hip-hop. C'est axé sur 4 pays, le Sénégal, la Serbie, le Brésil et la France. Et pourquoi j'ai fait ça? C'était ça la question. Donc, ben moi j'ai un profil communication journalistique. Je suis passionnée par le hip-hop.
Bah peut-être que justement on va déjà voir le trailer et je pense que oui, ça amènera aussi à pas mal de. Alors, est-ce que j'appuie sur le bouton?
When you look around, right? Look around anywhere. You see it everywhere. And I'm not just talking about walls with graffiti. I'm talking about advertisements. I'm talking about music. I'm talking about movies. People is everywhere.
É, construiu a história do hip hop, mas de uma forma muito tranquila, porque a gente não sabia que a gente estava fazendo história. A gente sabia que a gente estava resistindo.
Sempre tinha galera que ouvia o hip hop, sempre era aquele pessoal que sempre procurava mudar de vida. Pelas letras do rap, que ensinava a ser mais você, tipo, acredita mais em você e tal.
He taught me to think and to talk about the world in a different way. I see people think and talk.
And in this world today, it's sad to say, but it's really hard. And I take all this hard stuff, I take it in me and I spit it out in break. Or in graffiti, or in rap, or whatever. I make something really dark, really light.
Les valeurs qui étaient mises en avant au travers de tout ce qui était Zulu Nation, peace, unity, love, and having fun.
En fait, finalement, l'authenticité, c'est de vivre pour sa passion. Il y a vivre pour sa passion et à ceux qui veulent vivre de leur passion.
Le hip-hop, c'est toute une vie. C'est un mouvement. Et quand on parle de mouvement, c'est une philosophie, c'est une manière d'être, c'est une manière d'agir.
Comme on a l'habitude de le dire, nous ne sommes pas des rappeurs, nous sommes des activistes. Et le rap, c'est un instrument qui nous permet de véhiculer notre message.
Tudo, o hip-hop é muito politizado. Eu fiquei muito feliz, né? Deles voltar para a cultura, para a leitura, reivindicar melhores condições de ensino, biblioteca, teatro. Eu acho que é uma criatura de bom.
Merci, et puis j'en profite aussi pour remercier les partenaires qui nous ont suivis sur ce projet, notamment la ville de Pessac, le conseil général de la Gironde et le conseil régional d'Aquitaine, et mon équipe bien sûr. Il y a justement DJ Vex dans la salle qui a fait un travail magnifique pour ce trailer au niveau du son. Et donc voilà, dans ce documentaire, moi ce que je veux montrer, c'est la dimension internationale du hip-hop et ce qu'on ne nous montre pas dans les médias traditionnels. On parle souvent dans le hip-hop, c'est les États-Unis, la France en première ligne. Et en fait, je veux montrer que ça vit d'une façon différente dans différents pays. Et justement, en Serbie, qui connaît le hip-hop serbe? Je pense que c'est quand même quelque chose dont on ne parle pas. Et justement, je voulais mettre en lumière certains parcours, certaines actions liées au hip-hop dans ces différents pays.
Alors toi, tu es notamment allé du coup à la rencontre d'artistes sénégalais, brésiliens, etc. Et quand tu m'en parlais, tu me disais que tu constatais aussi que pour le coup, par exemple, la manière dont ça s'est développé au Sénégal, c'est aussi lié à une manière de vivre la ville qui a pas grand-chose à voir quand on va à la rencontre des publics et des populations. Notamment, c'est aussi lié à une ville qui est construite différemment et dans laquelle les gens aussi circulent de manière assez différente.
Oui, c'est une culture totalement différente, donc les codes, les modes de vie sont différents et le hip-hop s'approprie dans chacun des pays l'environnement, le contexte social, culturel, historique, politique de ces pays. Et il est clair que dans la culture hip-hop au Sénégal, il y a un fort militantisme pour un combat même pour... contribuer à améliorer le développement de leur pays, en fait. C'est vraiment une cause qui leur importe énormément. Et on parlait tout à l'heure de l'effort de conscience, le mot qui revient le plus au Sénégal, c'est la conscientisation des masses, en fait. C'est ça le terrain sur lequel ils travaillent. Et c'est vraiment la tendance là-bas, le hip-hop, la crédibilité du hip-hop là-bas, c'est ceux qui se battent pour la cause de leur pays, donc à travers différents exemples. Là, dans le trailer, vous avez vu les personnes du groupe Y'en a marre, qui eux ont... Enfin, Kurgi, en fait, c'est le nom du groupe, et Y'en a marre, c'est leur collectif qui a été monté suite aux élections de 2012. Enfin, je ne vais pas refaire tout l'historique politique, mais ils agissent... en faveur de leur communauté, sous différentes actions. Et c'est l'éveil, en fait, c'est un côté éducatif aussi de la citoyenneté, des conditions environnementales, des conditions sociales.
Et c'est aussi, il y a une ville dans laquelle les gens vivent beaucoup plus à l'extérieur aussi.
Oui, c'est sûr que en France ou en Occident, les gens... entre voisins, parfois on ne se connaît pas, c'est vraiment, il y a l'espace très fermé que là-bas, déjà dans la rue, tout le monde se dit bonjour, enfin ça c'est des petits détails, mais c'est pour dire que c'est beaucoup plus ouvert et c'est beaucoup plus esprit collectif en fait. Si nous, chez nous c'est plus individualiste, chez eux c'est plus dans un état d'esprit de partage et de collectif, de sens du collectif, je dirais.
C'est marrant parce que tu me disais aussi qu'au Sénégal, pour le coup, les gens vivaient dehors aussi et mangeaient dehors et invitaient les gens à manger avec eux et aussi ils s'appropriaient cet espace-là parce qu'ils avaient participé à sa construction en concret au final, en participant à construire la petite route qui est devant leur maison, etc. Et ça en soi aussi, ça génère une appropriation différente de l'espace public et une manière de rentrer en contact avec les gens différentes et peut-être plus naturelle et plus évidente.
Oui, ça je pense que c'est juste un sens des valeurs humaines très différentes de chez nous par exemple, mais c'est pour ça qui fait que ça génère davantage de rencontres, d'échanges, et c'est pareil pour le Brésil, j'ai pu le constater aussi dans des favelas au Brésil très clairement.
Justement, moi c'est vrai que ça m'amène un peu une question aussi, qui est que là en l'occurrence c'est des espaces aussi qui sont pas tellement programmés, dans lesquels les gens aussi s'approprient l'espace en fonction de l'usage qu'ils en ont, tandis qu'on peut voir plus dans des villes comme Bordeaux par exemple, des lieux qui sont construits avec une fonction au départ, dans lesquels justement du coup les circulations des publics aussi sont beaucoup plus sont beaucoup plus normés. Ils vont utiliser tel espace pour se rassembler. Certains espaces vont être destinés à ça. Il va y avoir des espaces qui vont être des espaces plus avec des vocations professionnelles, etc. etc. Et tu me disais aussi que, pour le coup, dans les villes dans lesquelles tu avais pu aller, le centre-ville, par exemple, était beaucoup plus investi aussi et qu'il pouvait y avoir une implication, par exemple, des graffeurs ou bien des gens de la scène hip-hop qui allaient aussi jusqu'au centre-ville. Hein, et que c'est des espaces qui, du coup, sont aussi moins programmés, quoi, dans lesquels il y a une forme de spontanéité qui peut se développer. Et par rapport à la scène brésilienne, tu me disais justement dans les favelas aussi, tout le travail qui est mené par les artistes là-bas. Quelle différence tu vois entre la scène brésilienne que tu as pu côtoyer et la scène sénégalaise avec cette proximité qu'il peut y avoir dans l'espace public, mais en même temps une mobilisation qui est un peu différente?
Alors, au Sénégal, je pense que c'est plus politique, comme tous les artistes actuels assez connus, ou du moins sur le devant de la scène, se considèrent comme la génération sacrifiée. C'est vraiment une lutte sans limite, en fait, pour améliorer les conditions sociales, etc., pour faire évoluer leur pays de différentes manières. Et au Sénégal, je rajouterais aussi, au niveau de l'espace public, l'importance du graffiti, en fait, et comment c'est vu. Le graffiti là-bas, c'est pas du tout illégal, c'est pas, y a pas du tout de répercussions judiciaires, etc. Au contraire, c'est bien vu parce que ça embellit un mur, ça va donner une image, une plus belle image de la ville ou du lieu dans lequel il a été fait. Donc ça, c'était un petit détail que je voulais apporter. Après, au sujet du Brésil. Bon, déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Brésil est considéré comme la capitale mondiale du graffiti, notamment Sao Paulo. Du coup, c'est pas les mêmes codes et tout ça. Et pour en revenir à l'appropriation de l'espace public et l'engagement qui s'y fait, au Brésil, c'est plus la dimension sociale que je verrais, par exemple, en suivant un collectif d'une favela à Sao Paulo. Ils font beaucoup de choses pour leur communauté et ils vont dans des ONG, ils donnent des ateliers aussi. En fait, leur but là-bas, c'est de mettre les jeunes sur le droit chemin. Pour résumer, c'est ça. Et du coup, c'est par des ateliers pour redonner confiance en soi aussi aux jeunes. Et voilà, je pense que les artistes, que ce soit au Brésil, au Sénégal, en Serbie, en France et partout, en fait, ce sont des gens qui se sont construits avec le hip-hop, qui ont eu de nouvelles perspectives grâce au hip-hop et qui ont pu réussir grâce au hip-hop. Et du coup, il y a un aller-retour. Ils se doivent de redonner quelque chose par rapport à ça et donc ils veulent aider leur communauté, transmettre ce qu'eux, ils ont appris et ce qui les a construits pour justement continuer cette boucle, enfin, je ne sais pas comment dire. Mais voilà, c'est ça qui les anime avant tout. Et il y a un autre rappeur qu'on ne voit pas dans le trailer, mais qui a fait de la prison et qui, en sortant, a sorti un album, etc., et fait des ateliers dans le milieu carcéral. Il va au contact d'une population toxicomane dans des quartiers spécifiques. Et voilà, il est très engagé. Ça a déclenché quelque chose chez lui qui fait qu'il s'investit. Et là, c'est un exemple, mais il y en a tellement...
Cédric Kellem, je te vois hocher la tête. C'est vrai que ça doit être quelque chose qui résonne pas mal avec le travail que tu fais au quotidien. Est-ce que justement tu as un témoignage à apporter en quelque sorte par rapport au caractère aussi naturel de cette implication auprès de la jeunesse?
Ouais, il y a deux choses. Déjà, quand tu disais, il y en a tellement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, tiens, je vais être utile. Voilà, je passe à l'action. Je pense que ça, c'est en fonction des villes et en fonction des quartiers où je suis passé, il y a quand même cette projection-là de personnes qui ont eu un parcours et qui se disent, tiens, moi, je vais me mettre au service. Donc ça, il y en a beaucoup, quand même. Et après, deuxième chose, moi, je ne le vois pas dans une vision évangélisatrice, en disant « attention, on va vous mettre dans telle ou telle direction ». Déjà, pour nous, on essaye de trouver la nôtre, ce qui n'est pas forcément simple non plus. mais on sait que d'utiliser les mots, voilà, ça va permettre de capter ce qu'est l'autre. Voilà, ça va revenir à ce qu'est la société. Moi, je reviens, je pense toujours au niveau local. Je n'ai pas grandi ici, mais en arrivant ici, eh ben forcément, on se fait connaître des autres. Moi, je me suis fait connaître des autres par mes mots, quoi. Et j'ai connu les autres aussi par leur façon d'utiliser les mots. C'est pour ça que je l'ai développé. Je venais du hip-hop, voilà, ça m'a permis de créer un sentier que je n'aurais pas eu si je n'avais pas, si j'avais pas fait de la musique. Maintenant, j'ai eu cette chance-là que des personnes, que je ne sache pas, je m'explique, que des personnes me fassent appel et mettent dans des endroits où je me dise « Waouh, culturellement, c'est la mort, laisse tomber, je ne fais pas ça ». Tu vois, parce que pratique culturelle était en face d'un autre qui vient d'ailleurs. C'est-à-dire quelqu'un qui écoute du rock, qui n'aime pas le rap. Et là où moi-même, je me dis, non, j'y vais pas, qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi. Et on y va, quoi, parce que j'aime bien le challenge quand même. Et j'y vais. Et là, moi, on se regarde différemment, quoi. Parce qu'on essaye de réinventer la relation à l'autre dans, qu'est-ce que tu fais, vas-y, quitter, qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on branle, en fait, là, voilà. Allez. Et de là vient une maîtrise même des mots, enfin, parce qu'on pourrait dire, oui, moi, je viens du hip-hop, voilà, comment faire. Non, tu vois des trucs sur la feuille en face de toi, à côté de toi, des visions, des points de vue. Moi, je me rappelle toujours, quand j'étais intervenu au CEID, et une vision de la vie, où des fois, toi, tu peux rentrer en atelier en disant, voilà, je vais vous dire ce que je pense. Et leur vision de vie, tu ressors de l'atelier, tu fais, waouh, ah ouais, je suis toujours en éveil, je suis sûr de rien. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie. J'y vais, je suis volontaire. Je me rappelle d'une conférence qu'on avait faite avec Claude Magne, qui avait dit un truc qui est sur l'artiste engagé. Peut-être que je vais déformer son propos. Je ne l'espère pas, mais si je le déforme, vous allez comprendre pourquoi. On lui a posé la question, c'est quoi quelqu'un d'engagé, artiste, asso et tout. Et il avait dit, je vous demande tous de lever le bras. Alors les gens n'avaient pas compris, ils levaient le bras comme ça. Et puis ça s'éternise. Et puis certaines personnes commencent à faire... Ça va, c'est bon. Eh bien, il dit, vous voyez, l'engagement, c'est ça. C'est prendre une direction, et même si ça fait mal, continuer dans cette direction.
Mathieu, tu es d'accord avec ça?
Difficile de passer derrière une si belle image. Oui, ben nous, on a fait pas mal d'ateliers aussi, d'éveil donc au Centre social et culturel de Kéris. Moi, je me suis toujours nourri de... en tant qu'artiste et aussi en tant que manager de projet, des expériences des autres, toujours dans un état d'esprit d'ouverture. Et je pense que l'art, c'est aussi ça. L'art, c'est ce qui peut permettre de rendre l'engagement finalement toujours plus accessible, parce que ça commence souvent d'un point de vue ludique. Et finalement, ça nous amène dans des territoires qu'on ignore. Donc oui, je crois vraiment à l'altérité, je crois vraiment au pouvoir de l'autre et la dimension d'écoute, donc en tant que musicien, je pense que l'écoute, c'est primordial. Et à l'intérieur de la cité, plus il y a d'écoute, je pense, plus on pourra vivre ensemble.
Et toi, vous avez mené aussi un certain nombre de projets avec des artistes venus de pas mal de coins du monde. Et justement, qu'est-ce que ça vous a amené comme réflexion par rapport à cette question-là d'être militant aussi dans le champ musical et puis de vivre pour la musique plus que de la musique peut-être
pour, dans tous les cas, toutes les rencontres que j'ai pu faire avec donc, des artistes en Turquie, avec une chanteuse turque, des rappeurs du Burkina Faso, des rappeurs de Montréal aussi, des rappeurs américains. Tous ces jeux-là, en fait, moi, ça me donne toujours plus, ça me rend toujours plus humble. J'essaye de plus j'avance, plus je me sens petit, et plus j'avance, j'ai envie de partager des choses avec d'autres artistes, parce que ça nous grandit en général tous les deux, ou plus si on est nombreux. L'intérêt aussi de voyager, c'est que ça nous fait prendre conscience aussi des systèmes, des habitudes aussi qu'on peut avoir dans notre cité, finalement. Le fait est qu'en France, les choses sont très normées, il y a une législation pour tout. Si on veut bien faire son travail, il faut connaître tous les codes de loi de beaucoup de champs, parce que dès qu'on intervient dans l'espace public, on se rend compte aussi qu'on, On doit parler avec les espaces verts, les services des espaces verts, le service des voiries, d'électricité. Enfin, le fait est que c'est qu'en France, tout est toujours assez compliqué, alors que dans d'autres pays, il y a quelque chose. Parfois, il y a des défauts aussi. Hein. Je ne suis pas en train d'idéaliser les autres pays, mais le fait est, c'est que des fois, les choses sont plus simples. Plus simples, on branche, il y a une prise, on branche quelque chose, on fait de la musique, ça s'arrête, et on passe à autre chose. Il y a une forme de, une forme d'ellipse qui peuvent se créer, des formes d'ellipse qui peuvent se créer à un moment donné dans un territoire, au sein de la ville, la nuit, le jour, le matin. Et c'est vrai que chez nous, c'est souvent prévu, programmé, cadré. Et voilà, c'est souvent compliqué d'avoir finalement des lieux à l'intérieur de la cité qui permettraient juste, par exemple, un proscenium au milieu d'une place où n'importe qui pourrait venir se brancher avec en jouant maximum une heure et puis ça tourne toute la journée. Je sais pas, c'est une idée comme ça, mais...
Une sorte de speaker's corner à l'ancienne.
Pardon. Les anciens cas musique, oui, ça existait, effectivement. Et après, c'est vrai que, du coup, parce que, par exemple, toutes les pratiques qu'il y a l'été sur nos places, les danseurs de capoeira, les b-boys qui dansent, toutes ces choses-là, c'est toléré. Le terme, c'est toléré. C'est illégal, mais c'est toléré. Et c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Normalement, c'est pas... Alors que tous les gens, on voit qu'il y a plein de gens autour qui regardent, des touristes qui viennent à Bordeaux parce qu'on leur a dit que c'était une belle ville et qu'il y avait le classement UNESCO, mais c'est aussi une ville qui vit, c'est pas juste un musée. Et le fait tel que ça soit toléré, ça me pose un problème, parce que finalement, on pourrait imaginer différents degrés de législation selon la nature des événements aussi. Peut-être qu'il pourrait y avoir un petit formulaire qu'on prend à la mairie, qu'on remplit trois fois, voilà, avec un responsable du projet, qui, s'il y en a un qui prend les doigts dans la prise, bon, bah, c'est lui qui est responsable, je sais pas. Mais qui est différents degrés de législation qui permettent à des projets comme ça, à des initiatives comme ça, sur un instant donné, dans un après-midi, sur un espace public, qui permettent de se projeter dans l'espace public et d'y amener aussi de l'art, du travail, parce qu'en général, les gens travaillent, quand ils se mettent en public, ils ont travaillé quelque chose, et que si on ne leur donne pas cette possibilité-là et qu'on est juste dans la tolérance de leur existence, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose, à côté de beaucoup d'énergie, à côté d'instants de partage, d'instants qui peuvent faire avancer tout le monde. Quoi.
Pour rebondir dans cette idée, c'est clair que l'espace public français, il est un peu désengorgé quand même. C'est-à-dire qu'il est un peu vidé de son sens, mais je crois que c'est aussi une culture nationale, même une culture politique quand on va voir ailleurs. C'est clair que l'idée de la prise du kiosque, elle existe encore ailleurs ou elle existe d'autres manières. Moi, je vois ça à l'envers, si on prend les choses à l'envers. Par exemple, depuis une dizaine d'années, ou peut-être un peu moins, cette capacité que chaque chanteur a au moins montré ce qu'il fait sur YouTube. Moi, je me dis, tiens, en tant que sociologue, il en a raté quelque chose quand même. Quoi. Ah, alors, je vais parler plus fort que la voix off. Je la laisse faire. Ouais. Je la laisse faire. Ah oui.
Et quelle place accepte-t-on de faire aux usagers imprévus des lieux ?
Justement.
Avec Bernard Landon, Michel Jollet, Clément Blanchet et Michel Duchesne.
Ah oui, en plus. Donc je me dis, tiens, on a raté quelque chose, parce que tous ces types ou ces filles, enfin ces personnes qui prennent leur guitare et qui ont le courage quand même, parce que finalement, mettre une webcam, s'enregistrer et se lancer sur YouTube, on s'expose beaucoup plus quantitativement que aller, Place Ferdinand dans la Fargue, s'il y avait une petite scénette avec un micro, ça se trouve à 18h, il n'y a que les mecs qui boivent leur bière qui vont écouter. Donc, a priori, c'est moins risqué. Hein, mais évidemment que c'est plus difficile. Donc, tiens, je me dis là, les pouvoirs publics, peut-être qu'ils ont raté un virage. Alors après, évidemment, on s'affronte avec la réalisation de ces éléments-là. Et en effet, dès qu'on veut mettre une scène en extérieur, l'espace public, c'est tellement normalisé. Parce que c'est une culture aussi un peu régalienne à la française, quand même, qui fait que, de toute façon, il y a une loi et une règle. Donc, à partir du moment où il y a une règle, ça devient plus compliqué, évidemment, de la détourner. Quoi. Mais je pense que, quelque part, alors moi, je ne suis pas en position d'acteur sur cette question, mais un des enjeux des acteurs, que ce soit des salles ou pas, d'ailleurs, mais des acteurs musicaux, qu'ils soient dans la salle ou qu'ils soient dans la rue, c'est de contourner, c'est de détourner, tout en jouant quoi, de ces règles-là. Et évidemment, ce n'est pas évident, mais moi, je crois, par exemple, dans la mixité des espaces. J'ai eu l'occasion d'aller à Brooklyn, il n'y a pas longtemps, et j'étais frappé par la capacité de certains endroits à mélanger les lieux. En fait. C'est-à-dire que moi, je suis basketteur, donc j'ai un œil sur les parties de basket, Et donc aux États-Unis, notamment à Brooklyn, il y a énormément de playgrounds. Des playgrounds, c'est des terrains de basket un peu grillagés où on joue a priori qu'au basket, qui ressemblent pas trop à des city stades qui sont quand même pas très jolis quand même. Enfin, là, je sais qu'on est censé parler d'urbanisme, mais c'est pas toujours très confortable quand même un city stade. D'ailleurs, c'est toujours très réduit, donc on peut pas faire grand chose. Et là, moi, j'ai vu plein d'endroits où, dans un playground, juste de l'autre côté du terrain, il y avait un type qui jouait de la musique. Et cette fois-ci, c'était juste un gars qui jouait en acoustique, mais je suis revenu sur ce lieu-là, et il y avait un concert d'organiser avec une petite scène, une sono. C'était hyper simple, quoi. Et là où ça marchait bien, et je pense que ça, c'est un des enjeux, c'est qu'on pouvait venir pour écouter la musique, mais on pouvait aussi venir juste parce qu'il y avait un café et quelqu'un qui vendait un truc sympa. En plus, c'est quelqu'un du quartier. Mais aussi parce que si on veut tirer 3 tirs au panier, on peut le faire. Alors on attend qu'on finisse, mais on peut le faire aussi en même temps. Voilà. Et ça, cette mixité d'usage, à mon avis, c'est un enjeu pour les lieux. Et il suffit de voir ce qui marche bien. Là, quand on mélange des choses, ça mélange des publics. Et ça se passe finalement mieux plutôt que sur un public très ciblé où on va faire venir que les rappeurs qui aiment le rap. Mais attention, de telle famille du rap, pas l'autre, quoi. Donc du coup, ça va virer tous ceux qui n'aiment pas le rap, tous ceux qui n'aiment pas la musique et qui pourraient éventuellement, s'il y a autre chose, venir. Et à utiliser cet espace public. Voilà, ça conclut un peu le sujet.
Maintenant, si vous avez toute question et intervention.
Bon, ça me dérange, j'ai pu parler au micro, mais j'ai constaté depuis un bon moment, à travers de la musique, à travers du chant, à travers de différents types de musique, on peut arriver à une sorte de protestation sociale, injustice, etc., etc., etc. Bon, bref, mais aussi, il y a une sorte de, je constate aussi, il y a une sorte de radicalisation, soit d'extrême droite, ou soit de, en disant, extrême gauche, je ne veux pas utiliser le mot extrême gauche, mais qui radicalise et sépare les groupes humains. Donc, de ce que j'ai compris depuis maintenant, depuis tout à l'heure, qu'est-ce que vous disiez, c'est qu'à travers de la musique, à travers du chant, on peut arriver à explayer la façon de protester les injustices de la sociale. Mais le problème, c'est aussi que des fois, ça m'est arrivé à écouter des musiques comme des rap qui préconisent la haine raciale. Et ça, ce n'est pas uniquement lié à une extrême droite, mais aussi à une ethnie spécifique. Et ça, vous, que vous êtes, vous travaillez dans le social, vous êtes sociologue, c'est ça? Mademoiselle, il travaille hip-hop, il était au Brésil, entre guillemets. Moi, je parlais l'autre fois, une fois, avec un jeune homme qui travaillait dans les favelas au Brésil. C'est un phénomène qui s'arrive là-bas, qui c'est bien l'hip-hop, c'est bien certaines musiques, mais des fois aussi, on trouve une phase de musique qui t'amène à la... qui amène à la haine raciale et aussi sociale. Donc, d'un coup, ce n'est pas uniquement l'extrême droite, qu'on la connaît, qui est hyper dangereuse, mais aussi une radicalisation d'un groupe ethnique spécifique, je dis ethnique ou groupe racial, je ne sais pas, qui peut préconiser la haine contre l'autre groupe qui tient le pouvoir. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, que je suis d'accord avec vous, c'est une histoire de blanc, noir, purée. On dit blanc, rat, raciste. Noir, on dit raciste, mais hey, on est tous humains. Donc aussi, il faut faire attention à ça. En tant que communicateur, moi, je suis cinéaste à la base. J'ai déjà travaillé avec de la population sur place dans des groupes ethniques différents. Mais aussi, il faut faire attention à ça, quoi. Je constate ça. Alors, par exemple, pour finir, l'autre jour, j'ai écouté une musique. L'autre fois, j'étais avec un groupe humain, des gens que j'ai connus. Ils sont mis à une cassette de musique... des chansons qui préconisaient la haine contre les blancs. Et c'était des blacks. Moi, j'ai des potes blacks, c'est pas une question. Moi, je n'entre pas dans ces jeux. Donc, il faut faire attention. Je sais pas. Je pense que tout le monde ici, on n'est pas d'extrême droite, j'espère. Mais en même temps, il faut faire attention aussi les moyens qu'on arrive à explayer une mécontente de la société, mais ça est destructif, quoi. Ça est pousser la haine sociale ou la haine raciale ou quelle que soit la haine, quoi. C'est ça que je voulais constater.
Mais c'est vrai que y a plusieurs choses que ça fait résonner votre discours. Effectivement, d'une part, il y a une vingtaine ou une quinzaine d'années, il y avait d'un côté un engagement politique fort qui pouvait exister contre des idées extrêmes et qui aujourd'hui est sans doute moins présent. Et Bon, d'ailleurs, ça fait les choux gras de tout un tas de médias, de France Culture à Rue 89, en passant par Marianne la semaine dernière. Et après, il y a la question, à mon sens, de la responsabilité que ça implique, effectivement, pour les acteurs de terrain, d'être en permanence dans la discussion et d'avoir des espaces de débat. Et en ce sens, la musique est aussi un outil extrêmement intéressant. Et je pense que Cédric sera pas complètement... opposé à ce que je vais dire. Il me semble que c'est justement le rap est aussi un outil pour amener des gens à s'exprimer sans avoir une maîtrise instrumentale excessive, et du coup c'est aussi quelque chose qui est plus direct en quelque sorte et qui est plus immédiat et qui amène à établir des discussions aussi. Après, l'engagement, c'est justement d'avoir ces espaces de dialogue et d'être en mesure que chacun explique et fasse partager avec les autres sa vision du monde. Et que quelqu'un a envie de réagir à ça, ou bien il y aura d'autres questions. Après, c'est des questions un petit peu compliquées, ornières.
Bonjour, alors je m'appelle Eddy Durtest, donc je suis fondateur et directeur de l'association UVS qui est aux Aubiers. Ça me fait plaisir en fait d'être sur ce type d'endroit, de participer à ce type d'échange. Ce qui me chagrine juste, c'est qu'effectivement, ça manque de personnes que j'aurais souhaité voir être présentes, qui sont ceux dont on parle. Et en l'occurrence, donc les jeunes, les moins jeunes, ces personnes, individus qui peuvent, par le biais de ce qu'on propose quand on est acteur de la culture, quelle qu'elle soit, artistique et ou plus spécifiquement hip-hop, participer, échanger, communiquer, se rencontrer. Moi, ce qui me vient à l'esprit au travers de tout ce qui est échangé ici et des propos, c'est que déjà, il y a un vrai problème au fond, c'est le manque de connaissance de ce qu'est la culture hip-hop en son sens et de l'indépendance qui est la sienne quant au rapport à l'aspect urbain, qui au fond n'est qu'un mot géographique qui détermine la cité en soi et qui, de fait, par l'amalgame qui est fait dans la conscientisation des gens qui tentent à faire qu'on penserait que la culture hip-hop est urbaine nécessairement, déjà, c'est un problème. Deuxièmement, le fait étant, c'est que la culture hip-hop, elle est avant tout militante parce qu'elle est née de personnes qui, de principe, n'avaient pas capacité forcément à rentrer dans les préceptes de ceux du conservatoire, des écoles, qui sont celles de l'élite, au fond. Et moi, je sais que pour mon parcours personnel, j'ai eu l'occasion de faire un an au conservatoire, et puis, pas que j'avais pas les moyens ou quoi, ok, c'est pas la question, mais j'y trouvais pas ma place, ni plus ni moins. Et c'est vrai que j'ai trouvé ma place, dans des ateliers de danse, dans des ateliers d'écriture. Et à l'époque, par contre, on parlait pas de slam, on parlait pas de style, on parlait pas de valeurs autres que celles véhiculées par le hip-hop, et plus particulièrement pour moi, le rap, puisqu'il faut quand même préciser que le rap est une des ramifications du hip-hop. Et pour nous, en tous les cas, un outil qui est un outil de revendication. Je dis bien qui est un outil et pas qui était un outil de revendication. Parce qu'aujourd'hui, c'est malheureusement autrement qu'on le présente. Et effectivement, la grande difficulté qu'on a, c'est de faire le lien entre ceux de 30, 36 ans, 40 ans, comme moi et d'autres, qui avons vécu avant 95 l'émergence et l'existence d'un vrai hip-hop, d'un rap conscient, d'un hip-hop qui était porteur de valeurs fédératrices, qui voyait dans les quartiers exister des moments sincères et où on retrouvait des gens avoir l'envie vraiment de faire son petit barbecue, de poser sa petite scène, et où je te retrouve sur ce que tu expliques et où ce que vous expliquiez tout à l'heure, sur ce que vous trouviez à Brooklyn, etc. Moi, je suis originaire de Lille, ça je l'ai connu en 85, en 78, quand je suis né, ma mère, elle me racontait des choses pas possibles à ce sujet-là. Et au fond, l'esprit hip-hop, c'est vrai que très vite, on peut faire un parallèle avec l'esprit populaire qui est le nôtre, de nos quartiers, parce qu'au fond, c'est ce qui fait la force du hip-hop, c'est qu'il est universel et qui vient prendre son sens profond dans la démarche qui est celle de tout individu qui, à un moment donné, se sent capable d'entreprendre, de transmettre un message, de transmettre des valeurs, de prendre vraiment soit le micro, soit la scène, peu importe, mais en tous les cas, d'être acteur d'eux. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est ça, justement. C'est pas qu'il manque d'acteurs, parce que des acteurs, on en est nombreux, mais il manque ces acteurs autres que nous, qui sont simplement ceux qui pourront transmettre les valeurs du hip-hop. Je dirais un peu pour symboliser la chose avec une petite métaphore sympathique, c'est que dans le hip-hop, aujourd'hui, il nous manque de griots et il y a trop de livres. Donc ça veut dire qu'au fond, au bout d'un moment, on se perd dans les dires et les écritures. Et Dieu sait qu'il est important de savoir lire entre les lignes. Mais ça ne s'apprend pas comme ça, ça se transmet. Et ces valeurs-là, elles ne se transmettent plus. Donc les jeunes se perdent et préfèrent nous proposer du gradure et du charisme et tout ce qui s'ensuit, au lieu d'être capable d'écouter à un moment donné du Solar, du Sunny MC. Donc moi, ça me fait vraiment mal parce que encore hier, on était à la Rock School Barbé, on a amené un artiste et tiers-monde, on a fait un échange, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens, je discutais, j'avais des a priori sur des labels, etc. J'ai découvert que je me trompais et j'aime qu'on me fasse mentir. Mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé sur un terrain commun où on s'est dit merde. Il y a un vrai problème, et excusez-moi le terme, mais ça me tient vraiment à cœur, c'est qu'aujourd'hui, il y a une scission. On n'est plus là, acteurs, nous, trentenaires, où on achète, on investit, on est présent, on va vers nos enfants, on leur dit non, stop, n'écoute pas ça, vraiment, sois vigilant, pas simplement en leur interdisant, mais en leur disant viens, je vais te faire écouter autre chose. Moi, je me rappelle que ma mère, elle m'intéressait à plein de musique, mon grand-père, c'était pareil, mes oncles, mes tantes. Aujourd'hui, on est pris par le système. Et donc, on laisse nos enfants se rattraper avec Internet, et indépendamment du fait, quand on leur interdit Internet, au travers de leur relation avec les autres au collège, du tout, ils y ont accès. Donc, à partir de là, je pense qu'on a aussi notre responsabilité en tant qu'individu, pas simplement en tant qu'acteur culturel. Et après, en tant qu'acteur culturel, et je m'arrêterai là-dessus, parce que je pourrais en faire tout un. Voilà. Mais moi, je suis dedans, je suis aux aubiers. Et depuis des années, j'essaye, comme Kalam à son niveau, comme NJ à son niveau, comme plein de gens, en fait, de permettre aux gens, à un moment donné, pas juste de profiter de ce qu'on peut transmettre, ce qu'on peut donner, mais aussi de se dire qu'on peut être acteur, encore une fois, réfléchir. Et la vraie difficulté qu'on a, c'est les moyens. Il faut être honnête, il faut être sincère. Tout d'un coup, quand on vous met face à des dossiers qui institutionnalisent votre démarche, y a un frein. Et puis, allez, on se dit, tiens, on va lever le frein, je te rejoins à Kalam, on est sur le chemin, on va au bout du truc. Et puis, on ne se rend pas compte qu'on se transforme, qu'on devient ni plus ni moins que la prolongation de ce à quoi on est confronté, qu'on ne voulait pas suivre au départ. Donc, il y a tout un chemin de schizophrène comme ça qu'on mène. Et puis, je te rejoins, c'est pareil, à défaut de chercher à donner des directions aux gens, on finit par en perdre la sienne. Et donc, quand on arrive à mener ces combats-là et qu'on reste là et qu'on avance encore, on fait ce constat-là, on manque de moyens. C'est un truc de dingue, c'est juste hallucinant. Et puis, franchement, et ouais, j'arrête là-dessus, c'est qu'il y a des monopoles acquis qui doivent être combattus, il y a une considération qui doit être prise en compte, vraiment, mais vraiment, il y a acteurs et acteurs. Voilà. Je ne suis pas là pour jeter la pierre sur les gens. Moi, mon souci premier, c'est la mutualisation, c'est le regroupement, c'est l'ensemble. Mais avant tout, il faut poser les choses, il faut être honnête, il faut être intègre, il faut dire ce qui est, ce qui ne va pas, il faut mettre vraiment les choses à table. Voilà.
Je pense qu'effectivement, il y a une grande partie de ce que tu viens de dire qui a sa force en soi. Un petit élément sur effectivement le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes gens ou de familles ici. Comme on le disait, on est dans des espaces extrêmement normés et celui-là en est un. Et après, je tiens à exprimer aussi le fait que les scènes de musique actuelles, par exemple, font partie des lieux de musique dites amplifiées qui ont été aussi actées par les politiques le plus rapidement, et que c'est une responsabilité quotidienne aussi pour eux de s'adapter en permanence aux expressions, et que je pense que c'est un travail qui peut être compliqué, parce que, comme tu le disais, Kalam, il y a aussi des manières d'être et de concevoir les choses qui sont différentes, mais qu'après, c'est quelque chose, une responsabilité qui nous incombe aussi au quotidien, de remettre les choses sur la table et de les questionner en permanence.
Oui, moi, je voulais dire que je fais partie des ateliers d'expression, ateliers d'écriture d'effort de conscience. Et je trouve que c'est une très bonne chose, parce que ça permet de redonner confiance aux jeunes. Et puis pour moi, je suis malade, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Et pour moi, le rap, c'est un médicament, quoi. Et voilà, c'est bien de défendre ses produits sur scène devant un public de 50 personnes. Et du coup, ça permet de faire transmettre un message, quoi. Voilà. Donc vive Kalam et forte conscience, quoi. Voilà.
Merci. Moi, je m'appelle David, je travaille avec Mathieu dans Banzai Lab. Je suis un des membres fondateurs de l'aventure. Je voulais juste rebondir sur 2-3 choses qui ont été dites. Et finalement, une question qu'on n'a pas vraiment soulevée ici, mais c'est ce que tu soulevais à la fin, c'est vraiment la question d'accès à l'espace public. C'est-à-dire qu'on pense l'espace public parce qu'il est beau, il est différent, il est joli. Mais ce serait le moment de reposer justement ces questions-là, même ce que disait Mathieu sur l'aspect, on a de la tolérance, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on ouvre vraiment l'espace public. Et puis je crois, par contre, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit sur le côté, effectivement, les gens qui s'exposent sur YouTube, je ne crois pas. Je crois justement que l'espace public, et les acteurs qui sont là, je pense que c'est ce qu'ils expriment aussi. L'espace public, quand quelqu'un se produit devant 30 personnes, ça n'a rien à voir avec produire une vidéo qui est vue 500 000 fois, parce qu'on est tout seul dans le cadre de son foyer, que justement on ne vit pas l'altérité. L'altérité, ça se vit avec son corps, quoi. Donc l'espace public, c'est aussi... Je veux dire, c'est avec son corps, donc c'est un combat charnel, quoi, de l'atteindre, d'y arriver, et de finir par être devant les gens. Et là, par exemple, les extrémismes qui peuvent s'exprimer d'une manière tout à fait libre dans le gentil cloisonnement de leur communauté, dans l'espace public, pour moi, c'est un peu un pharmacon, l'espace public, quoi. Ça peut vraiment avoir cet effet ultra positif. Et après, je dis que c'est un pharmacon, parce qu'un pharmacon, c'est à la fois un poison et à la fois thérapeutique. Ça peut être bien, ça peut aussi être un poison, parce que l'espace public, on peut aussi s'en servir pour dire des conneries dans l'espace public, pour manipuler les gens, ou aussi en faire un espace public qui est vraiment discriminant, quoi. Et je trouve que là, on est à cheval, quoi. On est à cheval sur on a une belle cité, on l'a bien rénovée. Voilà, quoi. Il faut arriver à... Moi, j'aime bien des effets produit complètement inopinément. Je trouve que le miroir d'eau, par exemple, ça a été braconné, quoi, en fait. Le miroir d'eau, à la base, c'est un truc d'architecte, la classe et tout. On voit trop bien la place de la Bourse. Au final, c'est devenu la marque populaire du coin. Il y a tout le monde là-dedans. C'est génial, quoi, ce côté d'appropriation, quoi. Donc, bah, finalement, on le tolère. Bon, on ne tolère plus trop les jeunes qui boivent là, parce qu'il y en a deux, trois qui ont pissé, qui sont tombés dans la Garonne. Mais pour dire, effectivement, que la question qu'il faut se poser là, c'est pas forcément... Il y a des questions, effectivement, d'ordre urbain, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec cet espace public? Mais pour moi, une question, elle est plutôt politique, c'est... voilà, c'est quoi les modalités d'accès à cet espace public? Comment on peut garantir un accès un petit peu égalitaire, qu'on soit pas... voilà, enfin, je veux dire, nous, par exemple, à Banzai, ça fait longtemps qu'on fait, on fait pas du lobbying auprès de la mairie, mais oui, on est allé voir les acteurs, on les a rencontrés. Peut-être que c'est aussi... voilà, on a eu un coup de bol et à un moment donné, ça passe bien. Donc, on nous donne un peu des clés, hein, des fois, d'espace public. On en est hyper content, ça nous fait plaisir, mais je veux dire, on veut absolument pas être les seuls là-dedans. Et je trouve que, voilà, vraiment... voilà, il y a une politique d'accès qu'il faut vraiment penser. Et c'est urgent de la penser maintenant. Si on ne veut pas que cette ville elle se transforme en autre chose que voilà, une jolie ville, musée, comme le disait Mathieu aussi. Mathieu ne l'a pas abordé, mais nous, une question qu'on trouve aussi cruciale, c'est qu'il y ait une politique de nuit dans cette ville. Là, on est en train de voir plein d'endroits, des petites jauges fermées, etc. Voilà, par exemple, pour donner accès à des petits groupes, à des petites formations, à des petites structures, là, je commence à me demander comment on fait, quoi, parce que... voilà, les petites structures ferment de plus en plus. Ça devient un peu catastrophique sur la diversité culturelle, etc. Donc voilà, toutes ces questions-là, pour moi, elles sont cruciales et elles relèvent vraiment du politique.
Alors, dans la famille, l'espace public confié à la musique et à la population, il me semble qu'on a eu quand même il y a pas mal d'années, j'ai plus 20 ans, mais je me rappelle des premières fêtes de la musique où effectivement notre ministre de la Culture de l'époque nous disait descendez avec des casseroles et tapez le 21 juin et exprimez-vous. Et si on réfléchit bien, si on regarde ce que c'est devenu aujourd'hui, bah en fait, ce que j'ai pu voir moi dans les premières fêtes de la musique où effectivement tout le monde descendait, tirait un câble et faisait de la musique dans la rue, en bas de chez lui, aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Puisque maintenant c'est limité dans le temps. Je parle dans la ville de Bordeaux, puis c'est là que je l'ai vu le plus souvent. Et essayez donc de descendre avec une casserole, un ampli et une prise électrique, vous allez vite vous rendre compte que ce n'est pas possible. Il y a des gens tout en bleu qui vont venir vous dire que ce n'est pas possible. Voilà, c'était un simple exemple.
C'est vrai que je suis complètement d'accord avec ça. Et le travail finalement de lobbying, d'organisation autour de la fête de la musique, on a l'impression que finalement il y a un effet pervers qui s'est créé. C'est qu'il y a une institutionnalisation des scènes musicales qui fait que du coup, tout ce qui n'est pas institutionnalisé, qui n'est pas demandé à la préfecture 2 mois à l'avance, tout ça. Donc finalement, alors que le jour de la fête de la musique, théoriquement, tout le monde avait le droit de faire de la musique, maintenant il faut que 2 mois à l'avance. Pardon. Sauf les professionnels, oui. Mais je trouve ça un petit peu problématique. Et par contre, on va avoir des podiums Ricard qui peuvent se sortir plus facilement que d'autres structures. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Et moi, le souci que me pose pour la fête de la musique, c'est que c'est le 21 juin. C'est un peu comme la journée de la femme. C'est un peu comme tout. C'est le jour où la Saint-Valentin, c'est le seul jour où on est amoureux. La fête de la femme, c'est le seul jour où on pense à elle. Enfin, je sais pas. Et la fête de la musique, du coup, ça veut dire que pendant 364 jours, il faut qu'on pense à autre chose et qu'on reste chez soi et qu'on soit silencieux. J'avais une réflexion par rapport à la territorialisation du bruit. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, dans l'optique de Bordeaux 2030, capitale européenne, enfin voilà, enfin, ou métropole européenne, pardon, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de... Il y a donc différents maillages territoriaux avec des salles, donc les SMAC à Bordeaux, des salles qui sont plus petites, qui se font fermer alors que les débits de boissons, eux, restent ouverts. Ils ont moins de soucis. Tout ce qui fait du bruit beaucoup sur les quais et qui vend surtout de l'alcool et qui n'a rien à faire de l'art et de la musique, apparemment, ils n'ont pas de soucis. Ça fonctionne très bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt, du coup, à avoir une réflexion autour de la territorialisation du bruit, c'est-à-dire qu'il y ait certains lieux, certaines zones qui soient marquées en rouge quand vous achetez une maison, quand vous louez, vous sachez que c'est un quartier qui fait du bruit, mais qui permette à tous les usagers de la musique, tous les usagers de l'art, de savoir qu'à cet endroit-là, il peut se passer des choses, il peut y avoir des choses, et c'est communément accepté, c'est prévu à l'avance, c'est-à-dire c'est forcément prévu 10 ans à l'avance dans notre société, mais qu'effectivement, qu'il y ait un quartier à Bordeaux où il puisse y avoir du bruit, du bruit, c'est de la musique, hein, mais pour certaines personnes, c'est du bruit. Et qui soient des endroits qui ne soient pas des débits de boissons, mais qui soient bien des endroits de culture, de musique, où effectivement, dans une logique économique, on puisse éventuellement vendre des certaines catégories d'alcool, parce que la logique économique font qu'il y a un désengagement des politiques publiques par rapport à sur la musique, mais que ce ne soit pas un lieu de débit de boisson, mais un lieu de musique, de création, et que ce soit, qu'il puisse y avoir de la danse, de l'expression, des ateliers de slam, pourquoi pas une scène slam au milieu de la ville, enfin je ne sais pas, qu'il y ait un endroit dans la ville où ça soit toléré et communément accepté, que c'est un endroit bruyant. Voilà.
C'est vrai que là-dessus, moi, ça m'évoque quelque chose, étant donné que pendant quelques temps, j'ai travaillé dans la politique publique et sur les projets d'aménagement, le gros problème avec l'espace vide, c'est qu'il coûte et qu'il ne rapporte pas. Et que globalement, quand on construit un espace public, on veille à un équilibre budgétaire et qui fait qu'un espace vide, on va le réduire au minimum à partir du moment où il ne contribue absolument pas à l'équilibre économique de l'ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit la manière dont se construit Bordeaux, il y a une grosse réflexion aujourd'hui autour de la rive droite, autour des bassins à flots, dans des espaces qui ont été investis par des propositions musicales diverses et variées, qui existent aussi dans le cœur, en quelque sorte, des gens aussi, parce qu'ils ont été investis par de la proposition culturelle, mais dans lesquels la cohabitation va être quand même de plus en plus compliquée à partir du moment où ça va être densifié, justement. Mais voilà. Il y avait des questions ou des réactions que ça générait dans le public de manière générale, ou des choses qui n'ont rien à voir.
Bon, si je peux prendre la parole. Donc, Ashraf, donc, de la Rock School Barbey. Donc, je m'occupe donc du secteur musique et quartier, donc, qui est financé majoritairement dans le cadre de la politique de la ville. Je vais faire bref. Je ferai une petite synthèse. Donc c'est une analyse, hein, que je vais apporter. Donc, je suis sur le secteur depuis 3 ans environ. J'ai vu l'évolution donc, d'associations, de collectifs et de groupes de hip-hop, rap, issus donc, des quartiers, entre guillemets, comme on l'évoque, prioritaires, je dirais quartiers populaires. Mais ce sont des jeunes assos collectifs qui, aujourd'hui, œuvrent au niveau local, régional et voire national. Pour d'autres, au niveau international, qui commencent à vraiment clore et vraiment être acteurs de leur projet. Donc, aujourd'hui, au niveau de Bordeaux, on sent qu'il y a une envie donc, d'aller de l'avant, mais ils sentent des freins. Donc des freins, ça c'est le constat que je porte et je souligne. Donc des freins au niveau d'accès, enfin, comme on disait, hein, avec Bonza et Lab l'ont bien montré aussi, c'est d'accéder à certains lieux, hein, culturels pour qui est ce qu'on appelle une appropriation, dans le cadre d'un partenariat. Pour avoir accès à ce qu'on appelle à l'espace public. Certes, il n'y a pas d'espace public idéal, mais il y a un espace public où des personnes, des gens peuvent, à un moment donné, s'y retrouver. Mais d'autres, ils ne trouvent vraiment pas cet espace-là. Donc quand je dis certains, c'est ceux qui essayent vraiment de monter des projets alternatifs qui ne vont peut-être pas être dans un moule de projets ou d'idées ou de projections de projets. Donc, il y a ce constat qui est relevé, qui est identifié sur le terrain, et il y a une frustration, une indignation donc, d'un mouvement, hein, ou de plusieurs collectifs. Quel impact ça aura les futures années, ça je n'en sais rien. Aujourd'hui aussi, que majoritairement donc, des jeunes écoutent du RAP, rap. Attention, je prends le hip-hop conscient, vraiment, qui porte des valeurs, et non pas bien sûr... un hip-hop, mais qu'il faut respecter, hein, c'est la même, j'en discutais encore il y a très peu de temps avec Eric Rooks, le rock était exactement pareil dans les années 80, donc il y a plusieurs écoles du rock, dans le rap on retrouve exactement les mêmes courants d'idées, les mêmes courants de pensée, plus ou moins, je dis bien plus ou moins, donc aujourd'hui nous sommes face à une envie, à une... comme l'a dit Adé aussi, du VS, ils œuvrent au sein de leur quartier, mais ils aimeraient bien aussi développer des projets, comme on en fait depuis un certain temps à la Rock School, mais ils en font aussi au-delà de la Rock School. C'est de pouvoir accéder tout simplement à des lieux avec une équité, avec un respect de projet, avec une envie de les aider pour qu'il y ait une envie politique, je dirais, d'action à long terme. Voilà, donc ça c'est un constat que je souligne et que j'essaye donc de... Effectivement, avec Marie, dans le cadre de la SMAC, nous avons clenché donc quelques réunions pour pouvoir désamorcer en quelque sorte ou essayer de trouver des lignes ou une trame de travail pour pouvoir qu'il y ait cet accès-là. Voilà, pour la petite parenthèse. Mais bien sûr, il reste encore du chemin.
Moi, ça m'évoque aussi quand tu parlais tout à l'heure de la proximité qu'il pouvait y avoir entre le hip-hop ou le rap et ces dernières années et la question du rock il y a quelques années. S'il y a une similarité qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on peut pas être complètement utopique non plus. Il y a d'un côté une dimension ultra commerciale et marchandisée dans tous les champs de musique, quels qu'ils soient. Et il y a un champ aussi qui est plus indépendants, qui a été réapproprié aussi par des gens qui ont l'intention de changer un état de fait à un moment donné. Et voilà, quoi qu'il arrive, la musique, c'est un média et ça apparaît aussi comme un divertissement d'une certaine manière et cohabite toujours dans les différentes esthétiques qui nous occupent des courants assez, assez contraires dans ce sens-là.
Juste... Exactement. Je souligne juste que aujourd'hui, donc les rap, enfin, alors je dirais, le hip-hop existe depuis une quarantaine d'années. On sait, enfin, pour ceux qui le savent, on sait pourquoi les Africa Bombata, les Kool Herz, les Last Poets, pourquoi ils ont monté leur projet, etc. C'était pour défendre des valeurs, une pensée collective, hein, pour améliorer donc le vivre ensemble, et puis aussi pour porter aussi des valeurs et des notions donc de projets, hein, dans leur territoire. Aujourd'hui en France, les 30 ans du hip-hop ont été fêtés l'année dernière. Il y a donc, je dirais, une deuxième voire une troisième génération. Aujourd'hui, nous sommes face à des collectifs déjà organisés. Et il ne faut plus voir donc les groupes de rap comme des jeunes en difficulté. Attention, c'est fini. Aujourd'hui, nous sommes face à des collectifs organisés, associations, etc., mais qui manquent cruellement de moyens. Voilà. Ça, c'est le constat que je porte. Voilà. Je passe la main.
Je pense qu'on va passer la main globalement, puisqu'on est en retard de 25 minutes sur le timing. C'est totalement inacceptable. Voilà. Merci à vous. On essaie de casser les codes, au moins, en dépassant l'horaire. Voilà. On peut, oui. Ça peut. Merci beaucoup.